au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Bertrand Galimard-Flavigny.
Bonjour Michel Birol. Vous êtes maître de conférences des universités à la Sorbonne Paris 4 et vous avez rédigé une thèse sur les oisivetés de Vauban. Et on peut dire que vous êtes la personne qui connaissait le mieux Vauban, peut-être même mieux que Vauban lui-même, parce que ça fait à peu près 25 ans que vous vivez avec lui. Et aujourd'hui, nous allons parler bien sûr de Vauban, puisque nous arrivons à la fin de son année. On ne va pas dresser un bilan parce qu'il y a énormément de manifestations. Je sais que vous en avez participé à l'une d'elles à Malte. Il y avait un colloque organisé autour de Vauban et des fortifications. Et ce qui nous intéresserait peut-être davantage aujourd'hui, ce ne sont pas les fortifications, mais le Vauban écrivain. Et j'ai cru voir, en regardant les bibliographies, qu'il aurait publié seulement 4 ouvrages durant sa vie. Mais je crois que vous n'êtes pas d'accord.
Non, je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire que la publication signifie en fait qu'on passe par un éditeur, par la librairie. Or, Vauban a laissé en fait ses ouvrages manuscrits. Le seul pour lequel il est demandé un privilège de librairie est le fameux projet de Dîme Royale et le privilège lui a été refusé. Donc, les publications de son vivant ont été des publications à son insu aux Pays-Bas. Il y a une grande circulation des manuscrits de Vauban à partir très souvent de copies faites par les ingénieurs. Et il suffisait que le nom de Vauban figure sur un ouvrage pour que immédiatement des éditeurs à l'étranger s'emparent de l'ouvrage et le diffusent. Donc il y a un ouvrage qui a circulé qui s'intitulait « Le directeur des fortifications ». Qui est un ouvrage que Vauban avait conçu comme une organisation d'un service des fortifications. Et il a été publié en 1685 à La Haye et a largement circulé dans les Pays-Bas et revenu en France comme ça, puisqu'il avait été publié en français.
Mais Vauban écrivait tout le temps.
Vauban écrivait tout le temps. C'est on pourrait dire un boulimique.
Un boulimique
des petites notes que ses secrétaires patiemment recopiaient. Il avait 2 secrétaires que le roi lui octroyait, comme lui rappelait souvent Louvois, surtout ne m'écrivez pas de votre main, le roi vous offre 2 secrétaires, utilisez-les de grâce.
Il écrivait si mal que ça.
Il écrivait très très mal. Donc ces 2 secrétaires étaient aidés, on pourrait dire, par des secrétaires personnels que Vauban entretenait à Lille, dans la citadelle dont il était le gouverneur, et dans son château de Bazoches, dans le Morvan. Donc, tout un service important qui était chargé donc, de rédiger les mémoires que le roi lui commandait, les relations des visites de place, mais aussi des écrits personnels qui sont à la base même de l'originalité de Vauban en matière de réflexion politique, économique, sociale, religieuse, etc.
Parce qu'il avait tous ces thèmes en tête. Il n'était pas uniquement un militaire qui ne concevait que des fortifications.
Comment penser qu'un ingénieur formé en fait à la pluralité à la fois des matériaux, de l'économie, du marché public, de la politique, de la défense, se contente pendant 50 ans de service de murailles?
Vous êtes en train de me dire que ce général-là n'était pas un général, était plutôt un général atypique.
Atypique, non, parce que son prédécesseur, le chevalier de Clerville, qui était commissaire général des fortifications, comme Vauban l'a été à partir de 1678, avait commis lui aussi des mémoires qui étaient des réflexions, notamment sur la possibilité de développer le commerce entre Méditerranée et Atlantique par le canal des deux mers, le développement du port de Sète. Donc je dirais que c'est plutôt la formation de l'ingénieur qui est toujours dans la tradition de l'ingénieur de la Renaissance, de ingénieur italien qui fortifie, qui aide le prince à faire la guerre, mais qui sert aussi le prince par les fêtes et qui a forcément une réflexion politique.
D'où ce fameux ouvrage, Les oisivetés, qui, le bibliologue que je suis est très heureux parce que j'ai entre les mains, sous les yeux, bien sûr les auditeurs ne peuvent pas le voir, mais j'ai un gros volume, mais c'est une édition originale car ces oisivetés, on va en parler assez longuement, n'ont jamais été publiées auparavant, jusqu'à ce que vous le fassiez vous-même, en ayant réuni tous les textes, et les publier, les imprimer en volume. Or, une petite anecdote, justement, nous parlions du colloque de Malte il y a quelque temps, et je vous avoue que je n'étais pas loin de vous, et vous aviez passé un certain nombre de diapositives, et j'avais l'impression, parce que je suis totalement ignorant, que j'avais en face de moi des pages complètement imprimées. Or, Vauban, non, a fait exécuter des copies.
Oui, c'est-à-dire que l'écriture manuscrite qui était choisie pour mettre au net, selon c'était l'expression, mettre au net les mémoires, était une très belle écriture cursive qui s'apparente au Garamond actuel. Donc parfaitement lisible, c'est un régal pour l'historien. Et Vauban a demandé à ce que ces mémoires soient illustrées avec de très belles lettres ornées, avec des tableaux, donc des culs de lampe. Ce sont des manuscrits superbes que Vauban avait choisi en fait de faire relier aussi en maroquin rouge avec ses armes et dont il a fait faire aussi des copies. Le destinataire de la copie se voyant reconnu, enfin son rang social étant reconnu par une couverture en maroquin ou une couverture en veau ou en papier.
Oui, ce qui faisait toute la différence, là, on peut faire un petit cours de bibliophilie. Les ouvrages des grands appartenant aux grands étaient effectivement marocains. Et lorsque l'on voit un ouvrage important avec des armoiries royales sur du veau, soit qu'elles étaient rapportées, ou bien c'était un cadeau pour une certaine personne. Mais enfin, passons. Il y a combien de copies? Est-ce que l'on sait combien de copies il faisait faire par texte?
Il est impossible de savoir parce que déjà publier les oisivetés, c'est faire une œuvre historiographique parce qu'il n'y a aucun lieu dans le monde qui rassemble les 12 tomes des oisivetés tels que Fontenelle, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, l'a affirmé dans l'éloge funèbre de Vauban. Donc Fontenelle a été le premier à parler véritablement des oisivetés. Et nous n'avons aucune précision sur le nombre d'exemplaires que Vauban avait pu commander. Donc aujourd'hui, la recherche a permis d'établir à la Bibliothèque nationale de France, on avait 2 tomes.
Pardonnez-moi quand vous dites 2 tomes, 2 textes ou 2 tomes de...
2 tomes qui comprennent chacun plusieurs mémoires.
Plusieurs mémoires, donc
oui.
Pas la totalité.
Pas la totalité. Ben, la totalité, bon, je vais présenter rapidement. La totalité, ce sont 12 tomes et 29 mémoires au total. C'est-à-dire que les premiers tomes, les 4 premiers tomes, sont composés de plusieurs mémoires, ça peut aller de 10 à 6. Les tomes suivants ont en général un seul mémoire. Ce sont des plus gros volumes, des plus gros mémoires. Ce qui montre bien aussi la réflexion de Vauban. Au début, il rassemble des mémoires écrites en différentes périodes. Et après, dans un temps de maturation, il réfléchit, il ajoute et il rassemble sous un même titre, en fait, des textes qui ont la même thématique. Mais ces douze tomes ont eu une vie autonome, en quelque sorte, sous forme de copies, ont circulé parfois et ont été imprimés après, bien sûr, après la mort de Vauban, au hasard des circulations, en fonction de l'intérêt du mémoire. Je pense notamment à un mémoire sur l'importance dont Paris est à la France, qui est une réflexion sur la place de la capitale dans la politique et l'économie du royaume, mais qui se veut aussi une proposition de fortification de la capitale, ce que Louis XIV ne voulait absolument pas, puisqu'il venait de faire démanteler les fortifications de Paris après la Fronde. Donc, au XIXe siècle, sous Thiers notamment, qui avait un projet de fortification de Paris, on a fait imprimer le mémoire de Vauban. Donc, de la même façon, les mémoires sur la navigation des rivières ont joué un rôle important déjà sous Napoléon, et au XIXe siècle, on a publié ce mémoire-là. C'est-à-dire que la publication de certains mémoires des oisivetés est complètement détachée de l'ensemble. Ce que j'ai voulu faire, c'est redonner en fait au corpus son originalité, son intégralité, alors que chacun des mémoires avait eu sa vie.
Et pensez-vous que Vauban ait conçu ses oisivetés? Donc c'est un titre qu'on a donné par ailleurs ensuite, parce qu'une de, on non, parlait c'est... des oisivetés, mais c'était pas un... est-ce qu'il avait eu l'idée de ce titre-là?
Oui, c'est lui qui a intitulé ses mémoires Oisiveté ou Rama de plusieurs mémoires Rama. À ma façon, Rama. Donc ça montre bien qu'il avait, il avait l'idée de rassembler des textes qui avaient été écrits, et c'était en Rama.
Les oisivetés. Alors les oisivetés, quel est ce mot, est-ce que c'est lui qui l'a inventé, ou est-ce que c'était un terme en usage à l'époque?
C'est un terme en usage qui, bon, d'après le dictionnaire, pourrait renvoyer à la paresse. Mais bien sûr, pour Vauban, c'est plutôt la seconde acception du terme. Si on prend les dictionnaires, que ce soit celui de Furetière ou celui de Richelet, ou le dictionnaire de l'Académie française, bien sûr, l'oisiveté renvoie en fait à l'osium, au repos de l'honnête homme, au repos du gentilhomme qui lit et qui consigne par écrit ses réflexions.
Ce qui rejoint nos propos de l'origine quand je parlais d'un général atypique, et vous me soulignez avec juste raison que tous les généraux savaient écrire, était un gentilhomme, mais un homme de cour, un homme de savoir. Et c'est la raison pour laquelle les oisivetés pouvaient être non seulement, comment dire, quelque chose qui était en plus, qui pouvait compléter sa réflexion, son activité.
Je pense que Vauban, le Vauban rédacteur des oisivetés, est avant tout un gentilhomme. Je voulais souligner ce point. Et ses écrits intitulés Oisivetés signifient que Vauban les place véritablement non seulement dans le fort privé, mais aussi dans ce qui est pour lui essentiel pour un gentilhomme, le service du roi et le service de l'État. Or, ce service signifie en fait que le gentilhomme doit le conseil et l'aide à son souverain. Et devoir le conseil, pour Vauban, c'est aussi donner des conseils éclairés et avisés. Et lorsqu'on est un très bon observateur du royaume, que par ses fonctions, on le parcourt absolument dans tous les sens, l'année record 1681, on a établi qu'il avait pu faire 7000 kilomètres. 7000 kilomètres à cheval ou dans sa basterne, c'est-à-dire dans sa litière portée par deux mules. C'est quand même conséquent. Donc Vauban a pu observer les campagnes, observer les villages, observer les villes, les ports. Il a un avis éclairé sur l'économie, mais même sur une France qui souffre. Et il prévient le souverain de ce qu'il observe, il le met en garde comme tout gentilhomme doit le faire, et son conseil ou son aide n'est pas seulement une aide armée ou technique, c'est une aide profondément politique.
D'où un certain nombre de textes qui font fureur encore aujourd'hui à propos des modifications, notamment fiscales, qu'il prévoyait, du nouvel ordre de la noblesse, donc d'initiatives qui certainement devaient choquer à l'époque, mais qui sont complètement neuves pour l'époque, et qu'encore aujourd'hui, d'ailleurs, paraît très neuves.
Oui, neuves...
Enfin, pour ne pas dire novatrices, mais...
Oui. Elles ont les deux caractères, c'est-à-dire, il y a un aspect novateur dans le sens où Vauban ose affirmer, dès son premier projet de réforme fiscale qui s'intitule La Capitation, qu'il rédige en 1694, alors qu'on est en pleine guerre. Il affirme, dès ce premier texte, un principe essentiel. Tout le monde doit contribuer aux charges de l'État, parce que l'État protège tout le monde. Donc, c'est en fait faire fi des privilèges fiscaux, privilèges de la noblesse, privilèges du clergé. Tous doivent contribuer à proportion de leurs revenus. Bon, la difficulté étant bien évidemment d'évaluer les revenus pour trouver une proportionnalité. Vauban réaffirme ce principe dans le projet de Dîme royale qu'il va écrire en fait. Enfin, on va dire que la gestation va être un peu longue parce qu'il commence son projet en 1697 et il le termine vraiment en 1707, 10 ans plus tard. Il préparait une seconde édition d'ailleurs, il l'affirme 2 jours avant son décès. Donc ce projet de Dîme royale est novateur aussi puisqu'il réaffirme ce principe-là, et il va complètement à l'encontre des privilèges, mais on pourrait dire qu'il est d'une certaine façon un peu archaïque puisqu'il prend le modèle de la dîme ecclésiastique et qu'il tente de l'adapter à la royauté. C'est-à-dire, il part du principe qui est d'ailleurs erroné, qu'il n'y a aucune difficulté pour l'Église à percevoir la dîme royale, la dîme ecclésiastique, et que donc le roi n'aura absolument aucun problème à prélever la dîme royale proportionnée aux revenus, avec un prélèvement en nature pour les produits de la terre. Ce qui, effectivement, est quand même assez archaïque et demande une organisation, notamment la construction d'entrepôts pour stocker l'impôt en nature, avec absolument aucune dépense prévue pour cette construction. Donc, il y a des inconvénients, en fait, au système de Vauban. Et il mêle vraiment les deux. Il y a à la fois, mais ça, c'est tout Vauban, à la fois des freins, des archaïsme, il est très conservateur sur le plan social, et en même temps il y a vraiment des aspects novateurs poussés par justement son aspect sa maîtrise du développement de la science en cours et sa présence à l'Académie des sciences dès 1699, puisqu'il est membre honoraire, montre qu'il est vraiment, on dirait qu'il a un pied dans le XVIIe siècle. Et il commence à mettre le bout de sa botte dans le 18e.
Mais cette dîme et toute cette innovation à pied dans le 17e, un petit peu dans le 18e, ce texte dont on parle beaucoup sur la fiscalité différente, lui a quand même valu quelques ennuis parce qu'il y tenait. Il a tenté de la publier, vous le disiez tout à l'heure, il n'a pas obtenu le privilège, mais il l'a quand même fait.
Oui, il l'a quand même fait. Il dit lui-même qu'il est têtu et opiniâtre. Ne pas avoir l'autorisation de la librairie, ça signifie ne pas confier à un libraire, imprimeur, le soin d'imprimer et de diffuser l'ouvrage. Vauban prend une autre voie, il fait imprimer les pages de la dîme, mais c'est certainement son secrétaire, son ami, l'abbé Ragot de Beaumont, qui a été un chanoine très important à Alette et à Tournai, et qui vit à Rouen, non loin d'un autre précurseur de l'économie politique en France, Pierre Le Pesant de Bois-Guilbert, qui est un proche, donc qui va servir d'intermédiaire entre Bois-Guilbert et Vauban. L'abbé de Beaumont se charge vraisemblablement de l'impression de pages volantes d'une dîme qui n'est absolument pas reliée. Donc il se charge de cette impression à Rouen, il envoie les ballots à Paris et Vauban se charge de faire relier par ballot de 50 les exemplaires de la dîme qu'il remet ensuite personnellement. Donc il échappe en fait au marché de la librairie. Au fond, il pourrait avoir le droit de confier à des amis la lecture de l'ouvrage comme une copie manuscrite. Sauf qu'il dépasse quand même 300 exemplaires et que le livre s'arrache dans Paris, comme il dit. Il est très, très content, Vauban est très content. Donc il va, malgré l'interdiction de la police de librairie du 14 février, renouvelée un mois plus tard, qui condamne la dîme royale au pilon, il va continuer à la diffuser et il prépare une seconde édition. Donc il est fort heureux, d'ailleurs, du succès, parce qu'en fait, il pense arriver à faire triompher ses idées, c'est ce qui compte le plus pour lui.
Et combien de pages pour cette dîme? C'est pas très important?
Non, c'est pas très important, un peu plus de 200 pages, mais c'est très important comme texte, à mon avis, parce qu'il diffuse aussi ses connaissances sur le royaume. C'est-à-dire qu'il donne aux lecteurs la possibilité de connaître la superficie des provinces françaises, leur population et leur densité, puisqu'il s'élèverait un calcul de densité. Donc, il donne en fait aussi une description des ressources, ce qui permet de connaître, d'une certaine façon, la puissance du royaume de France, ce qui était considéré jusque-là comme secret et secret d'État. Donc l'homme qui patiemment a accumulé ces informations les donne en quelque sorte à tout lecteur éclairé, et en ce sens-là, il a vraiment un pied dans le XVIIIe siècle, puisqu'il saisit en quelque sorte une élite éclairée Et il la prend à témoin de sa démonstration, sur laquelle, en fait, il y a un outil possible pour mesurer la politique royale, c'est les variations de densité de population. Pour lui, c'est un critère. Dès lors que la densité baisse, ça signifie que le roi n'a pas fait ce qu'il fallait pour maintenir le niveau de population. Et il donne un instrument théorique très intéressant, me semble-t-il, c'est celui de la lieue carrée. Il prend une unité, comme nous prendrions aujourd'hui un hectare, et il calcule ce que cet espace peut produire du point de vue agricole, du point de vue forêt, du point de vue étang, et donc la population qu'elle peut nourrir. Il arrive à cette estimation, au fond, qu'il pourrait y avoir 850 habitants sur cette unité. Or, il n'y a que 660 habitants. Donc, pour Vauban, c'est la preuve quantitative que la France est sous-peuplée, alors que c'est le plus grand c'est le pays le plus peuplé à l'époque. En tout cas, que le roi n'a pas fait le nécessaire. Le roi est le père de ses sujets. Il doit avant tout protéger et nourrir la population. Donc, il donne en fait à celui qui est bon lecteur la possibilité de mesurer la politique royale. Et en ce sens-là, je trouve qu'il annonce vraiment les grands administrateurs du XVIIIe siècle.
Mais il y a un complément à ce que vous dites, c'est le fameux texte sur les cochons.
Oui, oui, dans le titre de la cochonnerie.
Dans le titre de la cochonnerie, parce que tout le monde se précipite sur le titre, mais ce n'est pas du tout cochon. Là, nous avons un exemple, un exemple concret de ce que pourrait faire, de ce que le cochon, ce qu'il peut apporter à la population.
Ce que le cochon peut apporter à la population, oui, le XVIIe siècle a vraiment découvert aussi l'élevage du cochon comme source vraiment de nourriture pour une population, notamment une population paysanne, qui aurait ainsi une alimentation carnée. Donc, un gros effort avait été fait sur l'élevage du cochon, avec des gros déplacements, regroupement des élevages parfois, et des régions qui pouvaient servir de régions nourricières, comme la Bourgogne et le Morvan notamment, si cher à Vauban. Or, Vauban constate qu'après la politique forestière de Colbert notamment, et le fait qu'on ait abattu beaucoup d'arbres pour la marine, il pourrait y avoir une menace sur l'élevage du cochon. Et il rédige ce mémoire pour montrer, en fait, la source inépuisable que peut être une truie pour l'alimentation de la France et même de l'Europe, d'après les calculs de Vauban.
Parmi les autres textes, est-ce qu'il y en a un autre qui nous aurait échappé, qui est une certaine curiosité?
Oui, je pense que le célèbre, c'était aussi un célèbre mémoire sur le rappel des Huguenots, qui est Vauban, écrit en 1689, 4 ans après la révocation de l'édit de Nantes, un mémoire qui demande au roi de revenir sur sa décision, disant qu'un grand roi est un roi qui sait reconnaître ses erreurs, ou en tout cas que le contexte n'est pas favorable pour une telle décision, que Vauban approuve, mais qu'il trouve en fait malvenu, alors que la France est en guerre à partir de 1688 et qu'elle a perdu en fait beaucoup d'artisans, beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de matelots huguenots qui sont partis à l'étranger malgré l'interdiction. Et Vauban décrit en fait la situation de cette fuite des protestants comme catastrophique pour la France. Il apparente au départ des morisques en Espagne au début du XVIIe siècle, et il trouve en fait que c'est une très mauvaise décision, et il conseille à Louis XIV de revenir. Et même, il lui donne les arguments nécessaires pour ne pas perdre la face dans ce retour, en fait. Mais Louis XIV, vraisemblablement, ne lira jamais le mémoire, Louvois ne lui communiquera pas, Madame de Maintenon, qui l'a reçu, ne lui communiquera pas non plus. Mais toujours est-il, Vauban, dans ce mémoire-là, montre bien, il insiste sur le fait que faire des martyrs, la Saint-Barthélemy l'a bien montré, ça ne fait que renforcer en fait les minorités opprimées. Et dans la marge, il ajoute que le roi ne peut pas décider de l'opinion et de la religion de ses sujets, seul Dieu peut le faire.
À vous écouter et en vous relisant d'ailleurs, car vous avez publié Vauban de la gloire du roi au service de l'État, une biographie intellectuelle selon votre propre expression de Vauban, je lis la fortification en acte et l'écriture, c'est-à-dire qu'il écrivait comme s'il prenait une fortification pour revenir un peu sur ce nom, on connaît Vauban, et tout est géométrique dans sa manière de, non pas d'écrire, mais bien sûr, mais d'approcher tous les sujets qu'il a traités, car il y en a quand même bon nombre, comme nous le disions.
Oui, dans son écriture, j'ai pu retrouver aussi déjà une forme de démarche scientifique, c'est-à-dire qu'il présente la plupart de ses textes avec des maximes, des axiomes, il le dit. Oui. Et il veut donner une force démonstrative, géométrique, c'est-à-dire irréfutable à pratiquement tous ses textes. D'autre part, il articule sa démonstration en arguments soigneusement numérotés, dans lesquels on retrouve toujours une quantification extrêmement importante. C'est-à-dire qu'il laisse aux mathématiques, en fait, le dernier mot dans la démonstration. Donc, quand Fontenelle dit dans son éloge qu'il a rappelé du ciel les mathématiques pour les donner aux hommes, on voit bien que Fontenelle connaissait bien Vauban.
Très bien, je vous remercie beaucoup.